Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie et Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Très bien. Avec ce joli temps.
Oui, c'est vrai, ça se dégage, on est bien, il n'y a pas trop chaud, c'est sympa. Vous allez évidemment nous parler de films à voir à la télé.
Oui,
combien ce soir ?
La petite rubrique qui depuis des années fait fureur, on l'espère.
Bah oui, oui, oui.
Bon conseil.
Oui, vous avez vous aussi vos fans. Il n'y a pas que Guillaume Sidom qui a
des
fans.
Oui, c'est vrai, pareil. Oui.
Ouais, ouais.
J'ai sélectionné 5 films pour le cinéma et la télévision cette semaine, dont un ce soir à ne pas rater. Et il y aura un conseil de lecture sur une icône du cinéma.
Ah.
Bon, vous avez une petite idée sans doute.
Oui, on pense. D'ailleurs, il me semble qu'on pourra peut-être l'écouter aussi. Mais ça, on va pas trop. Bon dire, même si on vous décrit ce que contient le panier de l'ouvreuse, et ce soir, le panier de l'ouvreuse ne sera pas porté ou supporté par notre spécialiste de la mécanique cinématographique, son retour de manivelle. Guillaume Sidom est absent ce soir, un petit congé.
Bah, oui, il s'est pris en retour de manivelle.
Exactement.
Un petit coup de cric.
Bon, il va bien. Ne vous inquiétez pas pour lui, il sera avec nous mercredi prochain. En revanche, il nous a laissé son billet d'humeur, celui qui ouvre son tribunal des séries tous les mercredis dans cette émission. Grégory Combe va nous parler de Jack Ryan. Jack Ryan, la série qui voit une suite, en fait, avec un film. Autrement dit, je vais essayer d'être un peu plus clair. La série s'est terminée après 4 saisons. C'était en 2023, en 2024, je crois. Et ils ont décidé de faire une suite alors qu'en fait, c'était terminé. Jack Ryan avait raccroché les gants, si j'ose dire. Et ils font une suite, mais sous la forme d'un film. Et ce film, évidemment, vous pouvez le voir sur la plateforme où il y avait la série, autrement dit, sur Prime Video. Tout cela va vous être raconté par Grégory Combe. Ensuite, dans le panier de l'ouvreuse, vous retrouverez l'affiche de la semaine qui sera scrutée par l'ouvreuse et par vous, Laurent Martin. Il y aura les reprises sur le grand écran et bien sûr les coups de cœur, car on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Allez, installez-vous confortablement parce que la projection va commencer tout de suite. Vous y êtes ? Ça y est ? Les lumières sont éteintes ? Voilà, les yeux vers l'écran. C'est bon, ça commence.
Ça va pas ?
Si, mais regardez devant vous.
J'ai des cachets dans mon sac.
Ouais, concentrez-vous sur la route, ça sera beaucoup plus efficace. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on annonce ?
De la pluie, je crois.
Oui, mais encore...
Sortie d'agglomération.
Donc ?
Oh, on accélère.
Eh oui, on accélère. Pas trop.
Emporté par l'élan, je ne vous ai pas dit que nous passerions deux coups de fil magiques. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir parler au réalisateur et à la réalisatrice de deux films dont vous allez entendre des extraits. Et c'est le cas maintenant avec ce film-là. Nous avons Pierre-Loup Docteur en ligne. Bonsoir Pierre-Loup.
Bonsoir Louis-Marie.
Pierre-Loup, vous êtes le réalisateur de ce film dont on vient d'entendre un extrait, Zora sans permis, un court-métrage qu'on aura l'occasion de découvrir sur grand écran samedi prochain à 21h dans la séance Florilège francophone du festival Détour en Cinécourt. Un bien beau film que voilà, Zora sans permis, l'histoire d'une dame qui a maintenant un certain âge, Zora, et qui est une petite mamie plutôt dynamique et qui est déterminée à passer son permis de conduire. Elle est seule maintenant, elle est veuve, et parce que elle veut conduire la vieille Alfa Romeo qu'a laissée son mari. Voilà une belle idée. Comment l'avez-vous eue, cette idée-là, Pierre-Loup Docteur ?
Alors, quand on a travaillé le scénario avec ma co-scénariste Marie Kmil, je crois que la première envie qu'on avait, c'était celle de faire un road movie, qui est un genre qui est plutôt américain, mais on voulait faire un road movie à la française, c'est-à-dire dans la campagne française. Et donc, à partir de cette idée, très vite s'est posée la question de qu'est-ce que ça représentait de faire un film en voiture dans la campagne française. Et en fait, c'est a émergé rapidement l'idée que, avec les services publics, qui s'éloignent de plus en plus, la voiture, c'était une nécessité. Et donc, on a imaginé ce personnage de Zora qui est encore dynamique, qui a une vie sociale, des activités, mais qui, depuis qu'elle n'a plus son mari, doit se débrouiller pour se rendre à toutes ses activités et donc passer son permis et l'obtenir est pour elle une nécessité.
Alors, ce qui est beau dans votre film, c'est la relation. Parce que la relation, je vais finir mon propos, la relation qu'a Zora avec Roméo, c'est le nom de son moniteur d'auto-école, et on sent que Zora est dynamique, elle fait beaucoup de choses, et la relation avec ce moniteur d'auto-école, qui lui est sceptique sur... sceptique sur le fait qu'elle puisse obtenir le permis de conduire. Il faut dire qu'elle n'est pas très, très douée, mais elle a la foi chevillée au corps.
Exactement, oui. En fait, on voulait aussi faire un pas de côté et pas traiter ce sujet-là de façon naturaliste ou trop, trop dramatique. Et donc, on a choisi d'en faire une comédie, une comédie de duo, où ce duo est formé par cette apprentie conductrice qui a 70 ans et son moniteur d'auto-école qui est... plutôt strict et qui ne verrait pas d'un bon œil son entreprise de passer permis.
Alors, votre distribution est magnifique. C'est Assadit Mandi qui joue le rôle de Zora et c'est Michael Abitboul qui joue le rôle de Roméo. Vous avez là un beau duo d'acteurs.
Exactement. On en a eu beaucoup de chance, en fait, parce que Assadit Mandi, avec ma co-scénariste, on l'avait vu dans Asphalt de Samuel Denchetrit.
Oui.
Puis dans Youssef Salem a du succès de Baya Kassmi. Et en fait, on s'était dit qu'elle était super parce qu'elle était à la fois drôle et qu'elle dégageait immédiatement une immense émotion. Et donc, on a écrit le film en fait en pensant à elle et on a eu la chance qu'elle nous dise oui de suite quand on lui a envoyé le scénario. Et pour Michael, c'est pareil, on l'avait vu dans plusieurs séries. Il a régulièrement des seconds rôles dans des séries comme Le Bureau des Légendes,
oui.
ou Des gens bien, qui en ce moment sur Arte.
On connaît bien sa silhouette, hein. Il a les cheveux roux, le visage un peu poupin.
Complètement, ouais. Et en fait, c'est pareil. Lui, en le voyant, on s'est dit que le binôme fonctionnerait bien, autant visuellement qu'en termes de jeu et de personnages, pour faire un binôme de personnages contraires. Et de la même manière, en fait, elle a envoyé le scénario à son agent, et il nous a répondu, je crois, dans la semaine, en disant qu'il acceptait le rôle. Donc sur le casting, on a eu beaucoup de chance.
Les images aussi sont magnifiques. Vous commencez par une image aérienne où on voit cette voiture. Hein. On comprend qu'on est dans un road movie, mais on se rend compte que ça pourra peut-être durer longtemps parce que la voiture ne va pas très droit quand même. Hein.
Oui.
Donc, les doutes qu'il y a à Roméo sont fondés, en tout cas sur la qualité de la conduite de Zora, ça c'est incontestable. Et puis il y a aussi cette façon dont vous accompagnez chaque fois vos personnages, à la fois dans la voiture, c'est capital, vous l'avez dit, c'est un road movie, mais en dehors de ces moments et de Zora quand elle est chez elle ou dans son garage avec l'Alfa Romeo qu'elle prend soin de nettoyer, souvent.
Oui. En fait, c'était, je pense, tout l'enjeu du film. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de trouver un équilibre entre d'une part la comédie et de l'autre une espèce de balade un peu plus mélancolique. Et il fallait trouver le bon équilibre pour que le film soit pas soit juste une farce un peu superficielle, mais qui tombe pas non plus dans quelque chose de trop misérable.
Vous avez un univers qui est à la fois joyeux, un peu politique, un peu comment dire barré avec des guillemets, c'est-à-dire que vos personnages sont pas franchement dans la ligne, toujours un peu en dehors. Votre précédent film Go Captain, c'était un peu ça, cet homme qui nageait dans le canal ou dans un fleuve avec un scaphandre de un autre monde. Voilà, il y a quelque chose chez vous que vous développez et qui happe chaque fois le spectateur.
C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait, quand quand on aborde un scénario, c'est de se dire comment on va faire le pas de côté qui nous amène vers un univers qui ressemble à la réalité, mais qui n'est pas tout à fait. Et qui fait que c'est l'univers propre au film et qui nous permet après de déployer des idées de cinéma, des personnages décalés, des situations plus originales. Et je pense, c'est une conviction qu'on a avec ma co-scénariste, c'est que plus qu'on peut traiter un sujet en fait social, grave et contemporain, sans forcément le traiter de front et en prenant ses biais qui sont la comédie ou le genre. En fait.
Oui, et c'est poétique aussi. Et ça marche tablement bien. Alors vous avez à votre actif plusieurs courts-métrages. J'ai parlé de Go Capitaine, celui dont on parle, Zora sans permis. Et puis qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs? On espère vous découvrir dans quelque chose d'un peu plus long peut-être.
Dans quelque chose d'un peu plus long peut-être, mais pas tout de suite, parce que d'abord ce sera d'un autre court-métrage que je tourne en septembre, pour lequel je suis à ce moment en préparation, et ça sera une comédie de science-fiction qui se passe en pleine mer avec un extraterrestre.
En pleine mer, on est impatient de découvrir ça, parce qu'on avait adoré Go Capitaine, je voudrais dire, on adore Zora sans permis, on imagine science-fiction extraterrestre, ça va être extraordinaire. Je rappelle, Pierre-Loup Docteur, qu'on peut voir votre film, c'est samedi prochain à la séance Florilège qui commence à 21h au festival Des Tours en ciné-course à Saint-Géniel-Bellevue sur les Coteaux, au-dessus de l'Union pour tous les Toulousains et les Occitans qui nous écoutent, de façon à ce qu'ils se précipitent pour voir le film. On est très content que vous ayez passé un peu de temps avec nous et on espère qu'on ira vous voir évidemment samedi, Pierre-Loup. Et pour vous raccompagner, ben on va écouter un extrait de la BO, cette chanson formidable qu'on entend à la fin du film, dont les paroles sont écrites par votre co-scénariste.
Exactement, les paroles sont de Marie Kniel et la musique est de Louis Chenu.
Alors, en voiture jusqu'à Saint-Géniès pour aller découvrir Zora sans permis. Et ce morceau signé Louis Chenu et Marie Kniel, ça s'appelle Let the Fire. Merci Pierre-Loup.
Merci à vous.
Chenu, Marie Kniel, c'est Let the Fire, la chanson du court-métrage signé Pierre-Loup Docteur, Zora sans permis, à voir samedi prochain, 6 juin à 21h, au festival Des Tours en ciné-cours à Saint-Géniès-Bellevue, au cinéma Ventura.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
L'affiche de la semaine, effectivement, et qui va être décortiquée par l'ouvreuse et vous, Laurent Martin.
Et oui, à l'affiche cette semaine, La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, le nouveau film d'Antonin Baudry, avec Simon Abkarian, Nils Schneider et Benoît Magimel, entre autres. Juin 1940, la France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve, c'est-à-dire la liberté. sans armée, sans appui, sans espoir, mais avec une folle conviction, la France, sa France, n'a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari, convaincre le monde que la bataille de France n'est pas terminée ni perdue. La réalité est têtue et lui donne tort, mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l'ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l'histoire qui semblait pourtant écrite d'avance. Alors ce n'est pas une nouvelle, le film historique français se mourait et n'avait plus la cote. Depuis des années, on filmait parfois les grands hommes au garde-à-vous, une lumière de cire avec une certaine dévotion. Il faut préciser que le biopic est quand même un sujet très difficile dans le fond et la forme. Peur du sujet, peur de l'histoire, les biopics se succédaient donc comme des cérémonies. Et ça bouge enfin avec Antonin Baudry. La bataille de Gaulle, l'âge de fer, propose l'inverse donc de tout cela. Antonin Baudry, vous le connaissez, c'est le réalisateur du Chant du Loup. Ne signe pas un biopic à proprement dit, mais un objet drôle, frondeur, bondissant comme une BD, tendu comme un thriller, traversé de fulgurances qui doivent autant à Tuyark qu'à Spielberg, à Goscinny qu'à Alain René. Et c'est dans ce télescopage permanent que le film trouve son sens. Alors ce premier volet repose sur une intuition simple. Pour raconter De Gaulle, il faut commencer par oublier De Gaulle. Il faut le déboulonner, lui rendre ce qu'il y avait avant la statue, c'est-à-dire un corps trop grand, une voix qui se cherche, une obstination qui passe parfois pour de la folie. Et c'est Simon Abkarian qui s'y colle. Le choix était aussi fou qu'improbable. Et l'acteur prend le parti de ne pas faire De Gaulle. Il l'invente sous nos yeux. Il y a dans ce général quelque chose d'un Don Quichotte égaré dans un monde qui ne croit plus au panache ni aux grandes idées. Et surtout, le cinéaste sait qu'une icône se construit par la voix et par le regard avant tout le reste. Ces cadres travaillent donc l'acteur comme une matière, des plans serrés sur la nuque, sur les yeux, une main qui tremble à peine, une larme qui naît. Et si l'histoire se ferait un chemin, c'est par des petits détails qui font basculer l'ensemble. Alors ce qui frappe dans ce film, c'est quand même la manière dont Baudry refuse donc l'unité de ton. Une scène d'état-major est traitée comme un thriller. Puis après, il y a un trait d'humour qui traverse parfois un moment dramatique. Un dialogue vachard ou rigolo surgit au milieu de l'action. Voilà, sans doute parce que ça suppose un truc que le cinéma français n'osait plus, croire qu'un sujet sérieux peut tenir debout sans gravité et penser que l'histoire peut s'échapper à l'image, à l'image d'Épinal. C'est le cas ici. Son De Gaulle est filmé d'en bas, comme un héros de série B des années 70. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. L'arc du jeune résistant, ne tient pas tout à fait l'intensité dramatique de l'histoire principale, par exemple. Mais c'est le prix d'un film qui veut être à la fois une fresque et un roman intime. Mais ce flottement, face dès qu'Abkarian rentre dans le cadre ou que la mise en scène retrouve son régime. L'âge de fer est donc le premier tome. Il faudra attendre donc J'écris ton nom en juillet pour mesurer la portée totale du projet. Mais ce que Baudry réussit ici déjà, c'est ce que personne en France n'avait osé depuis longtemps. Prouver qu'on peut faire un grand film populaire sur un grand tome sans solennité, sans révérence et surtout sans renoncer ni au plaisir du cinéma, ni à l'intelligence du sujet. Petite revue de presse sur ce film. Simon Abkarian incarne un général vibrant dans le passionnant bataille de Gaulle d'Antonin Baudry, selon 20 minutes. Abus de ciné a bien aimé aussi, sous la plume de Benjamin Bidolet. Enfin, un blockbuster français à la hauteur de ses ambitions. Critique positive aussi pour Première, que je cite souvent. Simon Abkarian enfile parfaitement le costume du général. Par contre, pas mal de bémols côté humanité, sous la plume de Cyprien Cadéo. Écartelé entre sa volonté d'égratigner la figure du général et celle de pâter, de monter une grande fresque patrimoniale, Antonin Baudry accouche d'un film malade. Et je ne résiste pas à l'envie de vous donner la critique des irrécutibles sous la plume de Théo Ribeton qui n'ont pas aimé. La période 40-42, couverte par ce premier volet, ressemble à une farce sur la virtualité de la guerre et du pouvoir. Emberlificoté entre l'académisme en fatigue et en grotesque à demi-intentionnel, le diptyque de la route à faire pour s'imposer comme il se doit, justifier ses 5 heures et rembourser ses 80 millions de budget. Voilà le général rhabillé pour l'hiver, si je puis dire. À l'affiche aussi cette semaine, beaucoup de sorties. On peut voir Anna et les enfants de Diane Clavier. On peut voir L'affaire Zanetti de Leonardo Di Costanzo avec l'excellent Roche Dizem. On peut voir un film macédonien, Le garçon qui faisait danser les collines. Voilà un joli titre. C'est l'histoire d'un berger donc en Macédoine. Le film de Georgi Unkoski. Qu'on peut voir à l'ABC Toulouse ou au CGR Montauban, Le Paris. On peut voir un thriller américain, The Plague de Charlie Pollinger. On peut voir Bait de Mark Jenkins. L'histoire se passe dans un village de pêcheurs au Cornouailles, un peu film qu'on peut voir à l'American Cosmograph. Les films d'horreur de la semaine, ce sera Scary Movie de Michael Tiddes. On peut voir Saccharine de Nathalie Erika James au CGR à Blagnac, par exemple. On peut voir des documentaires aussi. Il y a En nous de Juliette Binoche, qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors ou au Régent à Saint-Gaudens. On peut voir Mirage, un documentaire de Valentin Biran au CGR à Rodez. Encore un documentaire, c'est Toutes mes sœurs, de Massoud Bakshi, qu'on peut voir à l'ABC à Toulouse. Pour finir, on peut voir des films d'animation. Il y a Nouveau copain à Puffin Rock, un film d'animation dès 3 ans, de Jeremy Purcell, au cinéma Pax à Lourdes, par exemple. Et pour finir, Boucra, un film d'animation d'Oriane Barki et Myriam Benami, qu'on peut voir à l'ABC à Toulouse.
French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's.
Et vous reconnaissez cette voix incomparable, Diamond are the girl best friend, dans Les hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks. Ah ça, c'est un film extraordinaire. Et ce qu'elle raconte au tout début de cette chanson, Marilyn Monroe, parce que bien sûr c'est elle, en français c'est « Les Français sont ravis de mourir pour l'amour ». Ils aiment se battre en duel, mais je préfère un homme vivant et qui m'offre de coûteux joyaux. Et oui, elle a bien raison. Ah, ce film de Warhol, ce qui a fait de Marilyn Monroe, qui était une starlette à l'époque, elle bombardée au firmament des stars hollywoodiennes. Avec Jane Russell, on la revoit toujours dans cette fabuleuse robe rose, hein, quand elle esquisse. Quand je dis qu'elle esquisse, elle fait plus qu'esquisser, elle danse. Elle danse, c'est un clin d'œil cinématographique, humoristique, réadapté par Marilyn Monroe de la célèbre valse viennoise autrichienne. Voilà, c'est ça. Qui sera reprise plus tard par Sissi. Bon, on aura fait la boucle. C'est un film... Les hommes préfèrent les blondes de ça doit être 53, hein, depuis 47 elle tournait Marilyn Monroe, mais là en 53, alors là c'est le firmament, je l'ai dit.
Oui, c'est l'explosion de sa carrière. Là,
et c'est l'explosion littérale de sa carrière. Et on parle d'elle avec tendresse et on l'aime. On l'a toujours aimée parce qu'aujourd'hui, elle aurait eu 100 ans.
Et oui, et on en reparlera tout à l'heure dans le conseil de lecture.
Oui. On va laisser ça pour le conseil de lecture. En tout cas, écoutons les derniers accents de cette fabuleuse chanson.
Saint-Pérez, ça va très loin, non?
Non, c'est à côté, pourquoi?
Et parce qu'il y a un concours de air guitare samedi.
C'est quoi ce truc?
Ben, c'est que Tu joues de la guitare, mais t'en as pas. Tu vois?
Non.
Ben, en fait, c'est genre, là.
Je te sers, maman.
Là, j'ai ma guitare.
Ben non.
Mais si.
Une. Et une.
Tu veux une guitare, toi, maman?
Non, ben, faut s'imaginer que j'ai une guitare. Bon. Ouais. Voilà. Et après, ben, je joue avec.
Tu peux gagner des sous avec ça?
Bah non, je crois pas, non.
Mais ça sert à quoi alors?
Ben, je sais pas, c'est pour s'amuser.
Ah ben oui, c'est pour s'amuser. Et on a de la chance, on a au téléphone Apolline Andrès qui s'amuse et qui a réalisé ce film super, Lady Attila. Bonsoir Apolline.
Bonsoir.
Alors, on est très content de vous avoir en ligne. On avait Pierre Lou Docteur tout à l'heure, dont on verra le film à Florilège francophone. J'ai oublié de signaler que les séances à Détour en Cinécourt, il n'y a pas qu'un court-métrage, il y en a plusieurs et on a l'occasion de découvrir le vôtre. Alors, dans une autre séance, c'est Amour Humour et ça sera pour vendredi 5 après-demain à 20h30. Alors, Apolline Andrès.
Oui.
Make Air Not War. C'est un manifeste, ça. C'est un manifeste. Oui. Pourquoi l'air guitare? Racontez-nous ça.
Ouf, eh ben, c'est l'air guitare, pourquoi? Ben parce que, à vrai dire, en commençant à écrire le film, je connaissais pas très bien la pratique. J'avais des inspirations aussi parce que je pense que comme je suis comédienne et que je viens de la scène, j'avais ça en tête. Juste parce qu'en s'amusant sur des musiques, on se laisse entraîner et on se laisse jouer du air guitare, voilà. Mais en fait, ça révèle quelque chose qui est tellement joyeux. Et donc, j'avais envie d'en parler pour ce personnage qui est dans mon film. Voilà.
Ce qui est très bien aussi, très beau dans votre film, c'est que c'est vous qui interprétez Agathe. C'est vous le personnage. Le personnage principal, Agathe, cette jeune fille qui est mécanicienne, hein, mécano, dans le garage familial, hein, qui a été repris par elle et son frère aîné. Et c'est un garage pour machines agricoles plutôt. Hein. On vous confie les tracteurs et vous excellez. Dans ce métier, mais ce que vous aimez, par-dessus tout, quand je dis vous, c'est votre personnage, bien sûr, c'est cette air guitare et la façon dont vous amenez tout ça. L'extrait qu'on a écouté tout à l'heure, quand elle essaye de convaincre son frère que c'est bien, l'air guitare, elle n'est pas tout à fait convaincue. Elle arrive plus facilement à convaincre ses parents, quand même, sa maman qui va l'aider à faire son costume. C'est important, ça, parce que l'image est importante dans Air Guitar, puisqu'on n'a pas de guitare. Donc, il faut bien exister sur scène.
C'est ça, oui. Bah, c'est une proposition artistique complète, effectivement. Oui, il n'y a pas de guitare, donc il faut se créer un personnage. Donc le costume, effectivement, peut aider beaucoup, oui.
Vous êtes... fasciné, enfin, je ne sais pas si le mot convient bien, vous allez nous le dire, par la musique, mais pas que, par la scène, bien sûr. Vous avez coécrit une opérette, Les Éternels. Donc c'est pas surprenant de vous trouver à la tête à la réalisation d'un film musical. C'est pas votre premier film non plus. Hein. Vous avez déjà réalisé Lady Balls, qui était co-réalisé, non, je crois.
Oui. Ouais, c'était une autoproduction, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai un attrait pour le théâtre musical et comédie musicale, donc c'est pas anodin non de faire un film avec beaucoup de musique, ouais.
Oui, parce que on est à la fois dans cette France rurale, la France d'en bas, celle qu'on maltraite en général. Mais vous, alors là. Oui, on est en bas, mais on s'amuse. Et vous jouez justement avec la réalité du terrain et aussi le moment où ses voisins, les gens qu'elle côtoie dans le village où elle habite, Agathe, vont danser avec elle aussi.
Oui, c'est ça. J'avais envie qu'à la fin, ça puisse réunir tout le monde, puisque... C'est le pouvoir, enfin c'est aussi ce qui est dit dans le slogan du Air Guitar, enfin le qui est Make Air Not War, qui enfin qui réunit tout le monde en fait, qui est accessible à tout le monde.
Alors vous êtes aussi très très forte pour la mise en image. Elle est remarquable, la mise en image, parce que on sent combien Agathe est. Elle se réalise pas quand même, même si elle est bonne mécanicienne. C'est pas de ça dont elle avait rêvé quand même comme carrière. Et pendant tous les moments où on est dans l'atelier avec elle, vous filmez en 4/3 et même les bords se rapprochent comme pour l'écraser.
Oui.
Et au moment où elle va interpréter son morceau de air guitar, qu'elle monte sur la scène, on est toujours comme ça écrasé et on lui indique que pour lancer la musique qu'elle aura choisie, 60 secondes de musique, il faut qu'elle lève le doigt.
Oui.
Et ça va partir. Son show partira pour 60 secondes. Commencera pour 60 secondes. Vous levez le doigt, et à ce moment-là, on est en 16/9, on est en scope. Vous êtes très forte.
Bah, je sais pas, mais enfin, en tout cas, j'avais envie d'ouvrir, oui, à ce moment-là, comme une. Enfin, une. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi en elle, quoi. Donc, j'avais envie de l'imager aussi par ce biais-là.
Et c'est ce qui fait tout le charme de votre film, à la fois cette envie de se réaliser, ce qu'elle fait finalement, elle est contente d'avoir participé, d'avoir rencontré Jackie Blackslayer, il me semble, c'est comme ça qu'elle s'appelle.
Oui, c'est ça.
Et c'est son espèce de gourou, de mentor. Et puis aussi, son frère va faire quelque chose grâce à elle. On va pas trop en dire, mais grâce à Agathe, elle se réalise, mais finalement, à travers elle, son frère va réussir à prendre une décision.
Oui, c'est ça. Ouais, j'avais envie que, ben, parce que, oui, c'est ça. Enfin, le fait qu'elle trouve la joie là où elle a envie, et en fait, ça soit aussi, ça peut se propager autour d'elle, quoi, et donc aussi atteindre son frère. Effectivement, ouais.
Eh bien, on aura l'occasion de vous rencontrer et surtout de voir votre film vendredi prochain 5 juin à 20h30 à la séance Amour Humour du Festival des Tours en Cinécourt. Je rappelle qu'il faut grimper la côte pour aller jusqu'à Saint-Géniès-Bellevue depuis Toulouse. Et pour vous raccompagner, en attendant de vous rencontrer là-bas à Saint-Géniès, bon, on va écouter la chanson de la fin du film qui a été écrite par Captain Kif Air, n'est-ce pas?
Oui,
alias Ulysse Le Jeune,
voilà.
C'est ça?
C'est
vraiment, tout est très bien trouvé. Merci à Pauline.
Oui, merci beaucoup.
à Pauline Andaes. Et donc, on a rendez-vous avec vous vendredi. Et on vous laisse avec Captain Kif Air. Au revoir, bonne soirée. Et tout de suite, le tribunal des séries ouvre ses portes et Grégory Combe va vous parler de Jack Ryan. Guerre Fantôme, le film issu de la série de Prime Video.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, ce soir au tribunal des séries, on a une série qui veut faire son cinéma, c'est-à-dire c'est Jack Ryan, la série de Prime Video, qui sort un film pour faire la suite de sa quatrième saison, Jack Ryan, Guerre Fantôme. Je vais vous dire si ça vaut le coup, je vais vous dire si vous pouvez regarder si vous n'avez pas vu la série et qu'est-ce qu'on en pense. Déjà, premier point, ils ont l'intelligence de le sortir sur Prime Video. Pourquoi ? Quand on voit comment le dernier Star Wars, Mandalorian et Grogu, qui est un film très moyen, c'est pour ça que j'en parle pas plus, fait un flop, parce qu'il faut se taper 3 saisons pour aller voir le film, c'est pas très intéressant. Donc ils ont l'intelligence de le sortir sur la plateforme où il y a la série, comme ça vous pouvez tout regarder. Donc on est vraiment plutôt sur un téléfilm, mais avec des moyens quand même de films importants. Première question, peut-on le regarder si on n'a pas vu la série Jack Ryan ? Oui, clairement. C'est aussi le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pensé non pas comme un reboot, mais un peu comme un soft reboot. C'est-à-dire que si vous avez vu toute la série, vous aurez des clins d'œil qui vont faire plaisir, vous avez quelques personnages qui reviennent qui vont évidemment vous faire plaisir, mais vous pouvez très bien découvrir ce film seul. Dans ce nouveau film, notre Jack Ryan, qui avait quitté la CIA, parce que c'est l'analyste qui reste le moins derrière son bureau, Jack Ryan, hein. C'est un analyste de la CIA qui se retrouve toujours évidemment sur le terrain, à flinguer la moitié des terroristes autour de lui. Je me demande même s'il a fait quasiment une seule analyse de son bureau depuis le début de la série. Et donc, Jack Ryan, donc inspiré évidemment des livres éponymes et plein d'autres films qu'on a pu voir assez cultes, se retrouve là, malgré lui, replongé dans le milieu de l'espionnage, lorsqu'une mission secrète internationale révèle une conspiration mortelle, rien que ça, l'obligeant à affronter une unité clandestine dissidente, alors que le compte à rebours est lancé. Donc, il y a évidemment des vies en jeu, une menace qui s'intensifie à chaque instant, Jack qui va retrouver, évidemment, Mike November, qui est un agent de la CIA aguerri, et l'ancien chef de la CIA, qui est son ami Jim Greer, donc on revient sur un peu son équipe, et ça c'est intéressant, et ils vont mettre leur expérience combinée pour arriver, évidemment, à déjouer les complots. Ils travailleront avec Emma Marlowe, qui est une agente du MI6, qui est un petit peu l'équivalent, évidemment, du personnage de Jack Ryan. Alors, premier truc qui m'embêtait un petit peu, c'est que on était sur une série qui avait une conclusion, qui était somme toute assez sympathique, assez intéressante, et qui amenait vraiment, je dirais, le personnage de Jack Ryan à un point intéressant d'évolution. Malheureusement, le début de la série, c'est un soft reboot, c'est-à-dire qu'il s'ennuie dans sa vie civile, son couple n'a pas marché, et donc on repart en aventure. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut le regarder sans avoir vu la série, parce que c'est vraiment soft reboot. C'est dommage, quand on passe 4 saisons à s'attacher à un personnage, à le voir évoluer, et avoir un film qui nous dit, bon, bah finalement, en fait, on repart un peu à zéro, même s'il a pris en maturité et tout ça, évidemment, c'est dommage. On sent bien que ce film a envie de relancer la franchise sous forme de film sur Prime Video. C'est pas inintéressant, mais encore une fois, si on regarde une série, c'est pour voir les personnages évoluer. L'intrigue est assez classique, avec 20 000 retournements de situation, des traîtres, de traîtres, de traîtres. Bon, on est dans le cinéma d'espionnage hollywoodien, ça reste quand même efficace, les scènes d'action sont bonnes, et on passe un bon moment. Le personnage féminin est encore une fois, par contre, assez mal écrit, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au niveau vraiment américain, soit on fait des personnages féminins ainsi à sauver, ou quand on fait des personnages féminins qui ont une place importante, on les fait insupportables et donneuses de leçons. On est très loin du personnage joué par Ana de Armas dans Ballerina, qui était un personnage féminin fort, avec une vraie identité, une vraie histoire. Là, on veut juste faire le pendant machiste de Jack Ryan. Je sais pas, c'était pas nécessaire, et le personnage est très 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 vite oubliable. Donc, clairement, est-ce que ce téléfilm était nécessaire ? Non. Est-ce que c'est bien qu'il soit sorti sur Prime Video ? Oui, parce que ça ne méritait pas d'aller au cinéma. Est-ce que vous allez passer un bon moment à le regarder si vous avez aimé la série ? Une fois que vous passez un petit peu la petite déception de départ, de vous dire, bah, finalement, est-ce que j'ai regardé 4 saisons pour rien ? Bah, finalement, vous passez un très bon moment, et il fait ce qu'il a à faire, et quand se termine l'aventure, vous dites ben, « je reprendrai bien notre film du type ». Donc, c'est un bon divertissement, mais clairement, ça ne révolutionnera pas les choses. Donc, vous vous en doutez, votre temps est précieux, chères auditrices et chers auditeurs, et si vous avez un peu de temps à gaspiller, vous pouvez le passer devant ce téléfilm de Jack Ryan, somme toute sympathique. Je vous remercie.
C'était Grégory Combe dans son tribunal des séries. Vous avez un peu de temps à passer ? Passez-le avec Jack Ryan et sa guerre fantôme. Je vous dis que c'est Ramin Djawadi qui a composé la bande originale de la série Jack Ryan Guerre Fantôme. Vous me direz, ah bah oui, je l'ai reconnu. Bah oui, on reconnaît les accents de
oui,
Game of Thrones.
Évidemment, l'excellente bande-annonce.
L'excellente musique. Bah, on a l'impression qu'il fait dans la facilité, là, l'ami Ramin Djawadi.
Il a trouvé le truc.
Il a trouvé le truc. Bon, il est aidé par William Marriott. Ils sont mis à deux. Allez, on vous laisse encore quelques accents. Allez. Allez, laissons Ramin Djawadi et Jack Ryan pour préférer Taro Iwashiro. Une très belle mélodie qui colle parfaitement à l'image et à ce que raconte ce film extraordinaire. Ce film extraordinaire, c'est Memory of Murder de Bong Joon-ho, un film de 2003, son deuxième film au réalisateur sud-coréen, celui qui allait le propulser déjà dans les hautes sphères de la réalisation. Plus tard, il réalisera Parasite
oui.
Qui explosera carrément et qui mettra sa carrière sur orbite. Mais là, Memory of Murder, littéralement Souvenir du meurtre, c'est un film policier particulièrement dramatique et qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre sur le même sujet. Une pièce de théâtre de 1996 est inspirée de l'histoire vraie, des premiers meurtres en série de l'histoire de la Corée. Ayant lieu, ces meurtres entre 86 et 91 dans deux communes, Waseong, dans la province de Gyeonggi. Évidemment, les policiers vont enquêter, vous savez, ces genres de films, on pousse, on va d'un côté, on va de l'autre, on s'enlise, on sort, on fait venir un spécialiste, ouais. et puis on se plante et on trouvera pas l'assassin. Et le tueur en série. Et le film est particulièrement réussi. Memory of Murder, donc le film de Bong Joon-ho que vous pouvez voir au cinéma Pathé-Labège dimanche 7 juin en VO à 19h30 et au Pathé-Labège le lendemain le 8 juin à 21h en VO, un film d'un autre genre que vous aimez. Laurent, c'est oui. Le Mans 66.
On va faire vrombir les beaux cœurs, là, un film de 2019 de James Mangold avec les excellents Matt Damon et Christian Bale.
Oui.
L'histoire de Ford qui voulait concurrencer Ferrari et gagner les 24 heures du Mans.
Et la mise au point de la fameuse Ford GT40.
Exactement. Donc tout le...
Et qui seront... c'est l'édition 66 ouais. qui verra la Ford GT40 occuper les trois premières places des 24 heures du Mans.
Exactement,
et c'est
ouais.
extraordinaire.
Faire la nique à Ferrari, à Enzo ouais. Ferrari qui était furieux.
Oui, qui était furieux mais qui reconnaissait le talent ouais. en particulier du pilote. Du pilote, alors la voiture est à la hauteur, mais le pilote est assez extraordinaire et il est incarné par Christian Bale et le directeur de l'équipe et le mécano en chef, c'est Matt Damon. Ça marche diablement bien, je vous l'ai dit, le 8 juin, 21h en VO, Le Mans 66 au cinéma Pathé Labège. Au Pathé Wilson, vous irez voir des films chinois passés inaperçus. Au moment de la sortie, The Litchi Road de, oui, c'est un titre en anglais, de Cheng Peng Dong, un film de 2025, l'histoire d'un homme qui va devoir convoyer, des litchis pour les amener à l'empereur, il va devoir faire 5000 kilomètres.
Ah oui.
Ah ouais.
Merci
ah
bah à oui, Peter Carbone.
Ah oui. Ah oui, non, mais on est au Moyen-Âge.
Ah, ça va,
l'empreinte carbone, ça va. On oublie. The Litchi Road en VO samedi 6 juin à 11h, et puis vous resterez au Pathé Wilson, puisque c'est là-bas que ça se passe, et vous verrez Like a Rolling Stone. Vous voyez les titres. La traduction de ces titres chinois, Yi Li Chuan. Alors c'est un film plus sombre, puisque c'est l'histoire d'une femme qui s'est sacrifiée pour sa famille, qui est confrontée aux reproches de son mari, et les pressions du quotidien, la charge mentale, et elle décide de partir en voiture. Et elle va rouler, une espèce de road movie. Et elle va rencontrer, comme ça, des gens, des personnages. Like Rolling Stone, en VO, bien sûr, au Pathé Wilson, samedi 6 juin, 19h30. Los Silencios de Béatrice Seigné, un film qui avait fait les beaux jours de cinéma en construction de Ciné Latino. Alors là, vous irez à Rodez, au CGR, pour voir le film en VF, quel dommage. Mardi 9 juin à 9h30. Il faudra vous lever tôt. Et puis sinon, du côté de la Cinémathèque, alors, si on va du côté de Billy Wilder, on ira voir évidemment Embrasse-moi, idiot. Ah, ça, c'est un film particulièrement réussi que vous pourrez voir jeudi 4 juin à 21h avec une distribution magnifique, à savoir Dean Martin. Ouais. Kim Novak et Ray Walston. Ouais.
Ah oui.
Vous voyez comment deux mecs, un qui joue du piano, l'autre qui est garagiste mais qui écrit des chansons, vont essayer de retenir un crooner sur le retour pour qu'il écoute leurs chansons, parce qu'ils espèrent percer comme ça. Et donc il trafique un peu la bagnole puisqu'il est garagiste. Seulement Ray Walston, en fait Orville dans le film, il veut pas que sa femme soit confrontée à cet homme qui est un séducteur patenté. Alors il fait appel à une femme de petite vertu qui va jouer le rôle de sa femme. Alors vous imaginez ce qui va se passer, surtout que cette femme, c'est évidemment Kim Novak. C'est assez extraordinaire parce que il y a la famille, l'épouse Wilder s'amuse avec tout ça, et la question qu'on se pose et qu'il pose Billy Wilder, jusqu'où est-on prêt à aller pour réussir? Jusqu'où?
Oui.
Ben ouais, allez voir, donc. Embrasse-moi, idiot, jeudi 4 juin à 21h. Et puis, c'est dimanche 7 juin à 18h. On en a déjà parlé, on vous le redit. Priscilla, folle du désert, traverse.
C'est vraiment le thème de l'émission, voiture et musique.
Exactement.
Road movie et musique.
Road movie et musique. Ouais,
c'est... Là aussi. Là, c'est un bus.
Là, c'est un bus, mais avec trois passagers, des drag queens qui vont devenir célèbres, qui traversent le désert australien pour aller jouer. Elles ont trouvé un contrat là-bas. Et ça, c'est assez extraordinaire. Il faut les suivre, c'est magique. Et Priscilla, bah, c'est le nom du bus qui devient tout rose, ouais, au bout d'un certain temps. Je vous ai dit quand? C'est, laissez-moi retrouver, c'est dimanche 7 juin à 18h. Voilà pour le grand écran. Pour le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision, bah, garanti sans voiture et sans musique. Hein. Ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, avec Marina Foïs et Denis Ménochet. Vraiment un film à ne pas manquer. L'histoire d'Antoine et Olga qui gèrent une ferme bio dans un village de Galice. Et bien que le couple français fasse de son mieux pour s'intégrer dans la communauté, les habitants continuent de les considérer comme des intrus. Leur opposition à un parc éolien met les relations à cran. On est entre drame et thriller. Asbestas est peut-être son son meilleur film le plus abouti, produisant par la mise en scène et par les dialogues une tension impalpable et constante. Jeudi France 4, 21h, ce sera le passé d'Ashgar Faradi avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim. À la descente d'avion à Paris, Hamad, en provenance de Téhéran, est accueilli par sa femme Marie, dont il est séparé depuis 4 ans. Son retour va bouleverser la vie de la famille. Un film poignant et subtil sur le poids du passé, servi par des comédiens épatants, dont Bérénice Bejo, donc primé à Cannes. Vendredi, France 5, 21h, on pourra revoir Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock avec James Stewart et Grace Kelly. À cause d'une jambe cassée, le reporter Edbie Jeffries est contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Il est témoin d'un meurtre, une distribution judicieuse associée à un scénario parfaitement construit, un décor superbe, voilà, un pur chef-d'œuvre à voir et à revoir. Samedi, 21h sur Sister, là aussi un film à revoir, c'est The Truman Show de Peter Weir avec Jim Carrey, l'histoire de Truman Burbank, qui est un homme dont la vie entière est un show télévisé. Ses moindres faits et gestes sont filmés à son insu par un producteur avant-gardiste. Une fable moderne sur le jeu des apparences. Cette œuvre brillante et audacieuse est portée par un grand Jim Carrey. Dimanche, sur Arte, 21h, on pourra voir Capitaine Phillips de Paul Greengrass avec Tom Hanks. Ce film retrace l'histoire vraie de la prise d'otage du navire de marine marchande américain Maersk Alabama, mené en 2009 par des pirates somaliens. Un style nerveux et réaliste de Paul Greengrass et d'une efficacité absolue, hein, vraiment dans ce drame avec un Tom Hanks toujours parfait. Le conseil de lecture, le voilà, le voili, c'est Marilyn Chéry. À l'occasion du centenaire de Marilyn Monroe, Catherine Deneuve et le collectionneur Sébastien Cochon rendent hommage à celle qui demeure la plus grande star du XXe siècle. À partir d'un ensemble exceptionnel de photographies, dont certaines vraiment inédites, se dessine un portrait sensible de la star, son charme, son intelligence, son paradoxe, sa beauté, son courage, mais aussi ce petit charme mystérieux. Un très beau livre que vous retrouvez aux éditions Flammarion pour 40 euros.
Marilyn Monroe, dans, qui chez interprète I wanna be loved by you. Poupoupidou, ah, c'est ce que je préfère, Poupoupidou. Extrait évidemment de la bande originale du film de Billy Wilder, certains l'aiment chaud, l'histoire de ces deux musiciens incarnés par Tony Curtis et Jack Lemmon qui se déguisent en femmes afin d'échapper à des gangsters de Chicago dont ils ont été témoins d'un meurtre et ils embarquent donc en femmes au sein d'un groupe de musique de femmes dont la chanteuse est Marilyn Monroe. Le film qui a fait de Marilyn Monroe et Billy Wilder des deux grandes stars du cinéma hollywoodien. Monroe, Marilyn, reçoit le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour son rôle, et Jack Lemmon aussi qui reçoit celui du meilleur acteur. Quant à Billy Wilder, c'est celui de la meilleure comédie. Et voilà, et depuis, le film est classé en première position du classement de l'American Film Institute des 100 plus grandes comédies, devant Tootsie et Docteur Follamour.
Be loved by you.
Ah, ce Poupoupidou. Vous avez envie de l'entendre et de le revoir sur grand écran. Vous êtes vénard si vous êtes toulousain, mais vous descendez à Toulouse. À la Cinémathèque, samedi 20 juin à 16h, Certain Lame Show sera projeté.
Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils viendront pas, moi. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
On le croit, Laurent, on le croit qu'on est définitivement perdu?
Oui, est-on perdu, nous? Je sais pas. Hein.
Alors, juste un petit mot, juste un mot, le box-office, vite fait, avant de vous donner nos coups de cœur. C'est le Mandalorian et Grogu, même si le film est pas terrible. On partage l'avis de Grégory Com, il est en tête, mais c'est un démarrage en deuxième semaine, il ne totalise que 700 000 entrées, ils espéraient beaucoup plus. Michael, par contre, est en deuxième position, après 6 semaines, a dépassé les 5 millions, et celui qui nous intéresse, c'est l'objet du délit, qui est en sixième position, 101 000 entrées, et c'est le film d'Agnès Jaoui, voilà. On espère que ça va durer. Laurent, quels sont vos coups de cœur?
Les coups de cœur, ce sera La bataille de Gaulle, L'âge de fer, Le garçon qui faisait danser les collines, rien que pour le titre, The Plague, et bien sûr, Détour, un ciné-cours à Saint-Geniès, Bellevue, courez-y.
Oui, on va y courir. La bataille de Gaulle, L'âge de fer, pour moi aussi, Le garçon qui faisait danser les collines, et puis évidemment, les deux cours dont nous avons parlé avec Pierre-Loup Docteur, Zora sans permis, et Apolline Andreis, Lady Attila, tout ça, c'est à Détour en ciné-cours, on ne saura trop vous conseiller, de grimper la colline. Merci Laurent.
Bonne soirée, à mercredi.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine à 20h, Nathalie Cardon et ses clés pour vivre. Salut.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.